Paso doble.
Paso doble.
Jeudi, polar.
Bonjour François Bégodeau.
Bonjour.
Vous êtes mon invité ce matin pour parler de votre dernier roman édité par Vertical, Molécule. Alors, partir d'un fait divers des années 90 avec à la clé une intrigue criminelle mais facile, un coupable qui avoue son crime sans rechigner, un jugement, un emprisonnement, était-ce pour vous une manière d'aborder une autre manière d'écrire, un autre style, le polar, ou plutôt de jouer avec les codes du polar ?
Disons que je pense que ce qui m'intéressait, c'était le fait divers. Il se trouve que souvent, le fait divers croise des policiers, hein, puisqu'il s'agit d'enquêter toujours à un moment. Donc c'est à ce titre-là que mon livre, à un moment, croise le polar. Mais il ne fait que le croiser. Je ne crois pas que ce soit un polar de A à Z, puisque d'ailleurs on quitte les policiers au tiers du livre, puisque après je suis des personnages, je dirais, au-delà de l'enquête policière, qui effectivement se résout assez vite. Donc à la base, ce qui m'intéressait, c'était la compression d'existence qu'il y avait dans ce fait divers très particulier que j'essaie de raconter.
Alors comment vous avez choisi ce fait divers et pourquoi ?
Je suis tombé dessus il y a très longtemps. C'est un fait divers en fait qui a eu lieu dans les années 80, si je me souviens, parce que je me suis pas redocumenté depuis. J'en ai gardé vraiment que les grandes lignes. Mais ces grandes lignes m'intéressaient beaucoup parce que d'abord, le fait divers engageait des gens ordinaires. Et ça m'intéresse beaucoup. J'aime quand le fait divers permet un croisement improbable entre des gens ordinaires et des faits extraordinaires.
Ce qui est souvent le cas dans les faits divers, non ?
Disons qu'il y a des gens qui sont un peu plus professionnels du crime, par exemple. Quand vous entendez dire que Monsieur Fourniret a de nouveau tué, il est rentré dans une forme de routine de l'horreur, lui, je veux dire, de son point de vue. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est quand quelqu'un qui n'a jamais tué en vient à tuer, et on peut supposer de lui qu'il ne tuera plus jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, un certain nombre de facteurs psychologiques, sociologiques, météorologiques l'ont fait basculer dans cette drôle de chose qui s'appelle un crime.
À partir de quel moment vous redevenez romancier, auteur de fiction, François Bégodeau, vis-à-vis de ce fait divers ?
Pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que si je devais quantifier ce que j'ai emprunté au fait divers et ce que j'ai très largement inventé, je pense que ça serait du domaine de 10%, 90%. J'ai vraiment conservé la quintessence du fait divers, disons le crime, son motif. Et après, j'ai inventé tous les personnages pratiquement, je les ai complètement peints, je me suis pas du tout documenté sur eux, je ne me souviens même plus d'ailleurs dans le fait divers originel comment s'appelait le criminel, ni ce qu'il faisait comme métier, ni d'ailleurs quelle peine il a fait en prison. Puisque...
Donc pas de travail de documentation, vous n'avez pas eu tout...
J'ai pensé à un moment, quand je me suis lancé dans ce travail, je me suis dit, tu vas d'abord te redocumenter, depuis le temps que ce fait divers te fascine, et puis en fait non, c'est-à-dire que dans les années où je l'avais un peu ruminé, où j'avais un petit peu rêvé autour de ce fait divers dans mon cerveau, j'avais constitué moi-même un paysage de récit qui me suffisait. J'avais plus besoin et je trouvais qu'au contraire, la documentation allait plutôt court-circuiter ce que moi j'avais essayé de bricoler. Donc non, je ne voulais plus du tout remettre le doigt ou le nez ou les yeux dans les vrais faits.
Mais alors pourquoi dire que ça part d'un fait divers
Parce que c'est vrai.
Ouais.
Voilà, bon, ça part d'un. Mais vous savez, c'est comme si vous partez de Nantes pour faire Nantes-Istanbul, et je veux dire, vous, au bout du compte, Nantes est relativement anecdotique, quoi. Bon, là, c'est un peu plus qu'une simple, un simple port de départ. Parce que, encore une fois, j'ai emprunté un certain nombre de choses, notamment le motif psychologique du crime, le motif psychologique dominant du crime, que je peux pas révéler là, puisque il n'est révélé qu'au bout d'une soixantaine de pages.
Il y a aussi toute l'époque qui est bien présente. Avec ses émissions télé, avec ses hommes politiques, avec ses expressions, c'était important pour vous, François Bégodeau, d'interroger avec deux décennies d'écart cette période française.
Pas vraiment. Je pense que les faits d'époque, ils participent plutôt d'une sorte de travail d'incarnation de l'histoire. Si vous décidez de mettre une histoire dans l'année 95, vous allez croiser des faits de 95, des vêtements de 95, peut-être des voitures, des éléments technologiques. Mais c'est pas le but. C'est plus, je dirais, c'est ce qui arrive au cours de l'écriture. Sinon, vous faites un roman complètement désincarné, ce qui est pas exactement mon cap habituel.
«
Pourquoi ça s'appelle Molécule ?
Ça, je pense que la réponse est dans les 250 pages, quoi. C'est-à-dire que c'est un motif, les molécules. Donc je le fais, je le décline un peu sous tous les angles dans le livre. L'angle le plus, je dirais, terre à terre, enfin, le plus factuel, c'est qu'il se trouve qu'un des personnages principaux, la fille de la victime, est très versée dans la chimie. Est tellement versée dans la chimie, donc elle se pose des questions métaphysiques qui sont aussi adossées à la chimie. De quoi est fait un corps, quoi ? Qu'est-ce qui nous constitue ? Qu'est-ce que c'est que cette matière-là dont nous sommes faits ? Est-ce que tous les phénomènes ne seraient pas des phénomènes fondamentalement moléculaires ? Elle se pose des questions comme ça, cette Léna, et c'est elle un peu qui donne le là philosophique du livre. Mais après... Le moléculaire, pour moi, c'est aussi le détail, c'est le petit. C'est-à-dire que c'est un principe d'écriture qui consiste à toujours essayer d'aller voir ce qui se passe dans les infra-affects. Sarraute parlait de sous-conversation. Moi, j'aime bien essayer d'aller voir dans les sous-affects, quoi. Vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose. Bon. Par quoi est-ce qu'il est vraiment travaillé au moment où il vous dit ça ? Par quoi est-ce qu'un criminel est travaillé moléculairement au moment où il tue ? Ça, c'est très intéressant. C'est une question que la justice se pose pas, parce que la justice, elle doit juger, elle doit arbitrer les choses de façon un peu grossière. Un romancier peut se poser ce genre de questions. Alors, je crois qu'un des mensonges de la justice, c'est de vouloir absolument mettre de la rationalité là où, clairement, la rationalité échoue. Moi, c'est ça que je me suis amusé à faire dans ces quatre chapitres, parce qu'effectivement, ça prend de la place. C'est de voir que, de toute façon, la justice, qui doit bien juger, elle doit bien arbitrer les choses, butera toujours sur une sorte d'opacité. Quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué de... Comme le dit d'ailleurs l'avocat de l'accusé, cette espèce de responsabilité à la fois très lourde et surtout complètement impossible de juger un homme. Qu'est-ce que ça veut dire juger un homme ? Alors ça, vraiment, il faut vraiment que la société... ressentent le besoin de juger les gens pour le faire, parce que finalement, c'est un homme est injugeable et un acte est injugeable en tant que tel, quoi. Donc bon, toutes les quatre chapitres là essaient d'organiser une sorte de d'inefficacité de la justice, en tout cas d'impuissance, de désarroi.
Et en tant qu'écrivain, François Bégaudeau, quel rapport avez-vous entretenu avec l'accusé Gilles Bourrel?
Je pense que quand on écrit, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, on suspend la morale, on la met entre parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'on va pas la récupérer à un moment ou à un autre, hein, mais on la met entre parenthèses.
Enfin, quand je dis Gilles Bourrel, c'est juste pour les présentations, page 94. Mmh. Ensuite, jusqu'à la fin, jusqu'à la page 250, il ne s'appelle plus que Gilles, comme si vous étiez rapproché de lui.
Oui, bien sûr, je pense que j'ai une écriture fondamentalement empathique avec mes personnages, tous les personnages, quoi que j'en pense par ailleurs. L'idée, c'est toujours d'essayer d'être avec eux, de voir comment ils fonctionnent et de ressaisir de l'intérieur quel est leur mode de pensée, de vie, d'existence, leur constitution moléculaire pour y revenir. Donc que ce soit un type qui est tué ou la pauvre victime, sa pauvre victime, je les mets à égalité de ce point de vue-là. Je les mets pas forcément à égalité dans mon fort intérieur moral que j'ai quand même.
Bah oui, ça reste de la morale, hein, ce que vous dites.
De les mettre à égalité, non. Non. Pour moi, justement, c'est un suspens. C'est de ressaisir les gens dans la difficulté qu'ils ont à vivre et à se débrouiller avec cette grande affaire d'être un existant.
Bah très bien, François Bégaudeau. Alors, comme d'une manière générale, c'est vous qui jouez tous les rôles de ce fait divers vis-à-vis des autres protagonistes. Diriez-vous que vous avez été leur double, leur témoin assisté, l'avocat des uns, le procureur des autres? Une chose est sûre, on est tout à fait d'accord, vous n'avez pas enfilé la robe et le rôle de juge, on a compris que l'originalité de votre roman est d'échapper à toute forme de jugement. Mais comment vous sentez par rapport aux autres personnages ?
Mais je pense qu'il s'agit de les accompagner, d'être avec eux, de à chaque fois se demander ce qu'ils pourraient penser à ce moment-là. Moi j'appelle ça, je réfléchissais un petit peu au christianisme, figurez-vous, récemment, je me disais, c'est quoi la charité, quoi, qui est une belle idée. Bon. Alors moi je ne sais pas si je suis quelqu'un de très charitable dans la vie, je pense que je suis ni plus ni moins de quiconque. En revanche, je crois que je suis en tant que romancier charitable, c'est-à-dire que c'est la charité, c'est... De trouver une sorte de lien organique avec ces personnages. C'est comme si eux, c'était nous, d'un seul coup, là, pendant les quelques heures qu'on passe avec eux à écrire. Et encore une fois, quels que soient les sentiments que peuvent nous inspirer ces personnages quand on les rencontre dans la rue ou dans la vie. Il y a des gens que je n'aime pas dans la vie, puis il y a des gens que j'aime. En tant que romancier, j'aime tout le monde.
C'est la première fois que vous parlez de personnages qui sont éloignés de votre univers, François Bégaudeau, non ?
J'ai quand même fait un livre sur des femmes enceintes, hein, vous savez, donc on peut difficilement faire plus éloigné de moi.
Oui, mais des femmes enceintes que vous avez côtoyées.
Ah, ou que j'avais interrogé pour faire le livre, mais qui n'étaient pas forcément des proches. Il y avait des proches, mais il y avait des moins proches. Mais en tout cas, tout le livre était écrit à la première personne, et je me mettais dans la peau de diverses femmes à qui il arrivait cette aventure d'avoir un premier enfant. Et...
Mais j'ai l'impression qu'avec ce roman, vous enterrez votre période autofiction.
Ben comment vous dire mieux, je crois pas, non, parce que voilà, le livre dont je viens de parler était pas du tout autofictionnel. Bon, il y a des livres dont on a cru qu'ils étaient très très autobiographiques et qu'ils l'étaient pas, comme La blessure la vraie, par exemple, qui effectivement s'inspirait vaguement de mes vacances en Vendée de jeune homme, mais dont 90% des pages étaient fictionnelles. Donc il y a parfois des semblants d'autofiction. Il y a des
ce qui est pas le cas pour Molécule, on peut le dire.
Ah bah, il y a un moment quand même un jeu qui apparaît, ouais, et dont on pourrait dire que c'est une petite intrusion de l'autofiction dans ce livre qui est effectivement pas du tout autofictionnel, hein, où il s'agit de fictionner les autres.
Qu'est-ce qui a évolué dans votre écriture d'après vous, François Bégaudeau?
Bah écoute, ça faudrait vraiment demander plutôt au lecteur, ce type un petit peu improbable ou cette nana un peu improbable qui aurait lu tous mes livres par exemple, je sais pas s'il en existe. Bon bah faudrait lui demander, moi je sais pas trop, je me vois être toujours plus attiré par le récit. Ce qu'on appelle le récit. Peut-être pas exactement par la fiction, mais par le récit.
Vous avez un certain plaisir pour les dialogues. Il y a même des pages entières de dialogues dans Molécule, François Bégaudeau.
Oui, c'est vrai que j'aime bien les dialogues, mais c'est pas mon livre le plus dialogué, loin de là quand même. Hein, mais j'ai fait des livres plus... Le précédent, par exemple, La politesse, c'était vraiment un livre de dialogue. Celui-là, moins. Hein, c'est plutôt un livre narratif, quoi, qui accompagne des personnages dans une drôle d'aventure, parfois très dramatique, parfois très burlesque. J'ai essayé de faire en sorte que ce livre soit à la fois une comédie et une tragédie. Bon, c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter des vies.
C'est la séquence rétroviseur. Écoutez ce que vous me disiez il y a quelques années, en 2009, parlons de votre écriture et du choix des mots et des expressions.
Chaque chose, chaque support appelle ses problématiques propres. Écrire un livre n'a absolument, décidément rien à voir avec faire un film, etc., etc., etc. Donc quand on est dans le livre, on est là pour faire des phrases. C'est à ça qu'on a à faire. Et ça, ça requiert votre concentration en entier. Essayer de faire des phrases. Tout le reste, c'est des choses qui... Quand j'ai écrit Entre les murs, je ne pensais pas au cinéma. Simplement, après, on a dit, oui, mais c'est vachement cinématographique comme livre. Oui, ben, probablement, parce que le cinéma m'a beaucoup marqué et que ça se ressent dans mon écriture depuis toujours. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait envisager les choses, je pense.
Est-ce que vous avez tenu à mettre un peu toutes les expressions d'aujourd'hui, hein, des Parisiens d'aujourd'hui, dans ce roman
ou ouais. Oui, j'ai fait la liste et j'ai dit, il faut qu'il y ait tout. Non, mais moi j'ai un goût immodéré pour les expressions orales, hein, comme il est déjà apparu dans certains de mes autres livres.
Ouais.
Et donc pour moi, il n'y a pas de volontarisme chez moi, il n'y a pas l'idée, il faut que j'en mette. C'est que ça vient tout seul sous la plume. Ça vient parce que j'aime ça, j'aime cette façon de parler. J'aime aussi le très beau français très classique.
Et le mélange.
Et j'aime surtout le mélange des deux. Et donc une expression comme con à manger du foin, par exemple.
Depuis rien n'a changé, François Bégaudeau, vous auriez pu tenir ces propos aujourd'hui.
Oui, mais c'est des propos qui s'appliquent plus ou moins à certains livres.
Ouais.
Là, on parlait, je crois, de Vers la douceur.
Vers la
qui
douceur.
Effectivement portraiturait des espèces de jeunes précaires de grandes villes des années 2000. Et donc, portraiturer quelqu'un, c'est aussi parfois s'arrêter sur la façon dont il parle. Je crois que c'est une des façons de cerner quelqu'un, de le décrire avec justesse, que de voir aussi qu'il utilise certaines expressions et pas d'autres. Enfin, on est aussi très caractérisé par notre façon de parler, donc je pense que ça fait partie du jeu, effectivement.
Vous travaillez beaucoup, d'ailleurs, votre écriture, François Bégaudeau, que ce soit les dialogues, c'est-à-dire ?
Bah, encore une fois, les dialogues, pas plus qu'autre chose, quoi. Les dialogues, ça m'est assez facile, je veux dire, c'est pas forcément ce qui me... Comment dire, ce qui me demande le plus de travail chez moi. Mais bon, en tout cas, je passe pas mal de temps sur le métier, comme disait à peu près Boileau.
Alors, vous n'êtes pas seulement romancier, François Bégaudeau, vous êtes aussi lecteur et critique. Vous écrivez aussi bien des romans, des essais que des scénarios pour la bande dessinée. D'ailleurs, je dois
signaler une bande dessinée qui est déjà sortie chez Delcourt, dessinée par Élodie Durand. Là aussi, c'est comme pour Molécule, vous partez d'un fait divers, d'un fait réel, pour faire le portrait d'une génération de femmes en mai 68, Wonder.
Bon, c'est le portrait d'une femme, d'une femme. Je suis pas exactement parti d'un fait réel, je suis parti d'un petit film documentaire qui est assez connu. Je suis pas du tout le seul à avoir déniché cette espèce de merveille qui voit une jeune ouvrière en juin 68 probablement, au moment où il est question de rentrer à l'usine, de retourner à l'usine après la grève générale. Eh bien, devant les usines Vondère, on disait Vondère à l'époque de Saint-Ouen, refusait de rentrer. Elle dit non, je n'irai plus dans cette tôle, ce qu'elle appelle cette tôle. C'est un petit film de quelques minutes qui a beaucoup marqué ceux qui l'ont vu parce qu'on y voit une résistante, quoi. On y voit une forte tête et surtout qu'elle est entourée d'hommes qui essaient de la rendre à la raison. Il faut savoir arrêter une grève, en gros, quoi. On a obtenu des choses, etc., etc. Et il y avait un film en 98 qui s'était demandé ce qu'était devenu cette ouvrière et qui échouait à la retrouver. On la retrouvait pas, ce qui la rendait d'autant plus mythologique. Alors moi, j'ai fait le parcours inverse. J'ai essayé d'imaginer, non pas ce qu'elle était devenue par la suite, mais ce qui avait fait que cette ouvrière avait contracté cette énergie de refus là. Donc j'ai essayé d'imaginer son mai 68 à elle. Et donc on la voit, ça part de l'usine où elle travaille, et puis elle est embarquée presque malgré elle dans une manif, et puis de manif en rencontre et de rencontre en squat, eh bien, elle va monter en puissance, comme on dit en sport. C'était ça, j'avais envie de raconter ce qu'on appelle un devenir.
Voilà, ça c'est la bande dessinée. Et vous écrivez aussi pour le théâtre ?
Eh oui.
Alors,
quel homme oui. À tout faire, c'est fou. Il y aura une pièce là qui va être créée à Dijon en novembre, écrite avec et pour surtout Benoît Lambert, mon complice et ami, metteur en scène, qui s'appelle La Bonne Nouvelle et qui essaie de comprendre ce que sont les affects des libéraux. Comment ça marche un libéral en fait ? Qu'est-ce qui fait tenir un libéral ? Ce qui est pour nous un sujet de perplexité pour Benoît et moi qui ne sommes pas complètement libéraux.
Voilà, et c'est un sujet d'actualité surtout. Et comment vous gérez votre temps pour terminer, François Bégodeau, vous qui êtes écrivain multiterrain? Est-ce que vous avez un emploi du temps du genre lundi littérature, mardi essai, mercredi je fais la critique, ou comment ça se passe?
Non, c'est pas aussi strict que ça, mais bon, on s'organise. Hein. De toute façon, tout est dans tout. Hein. Vous savez, je passe essentiellement du temps à lire et à écrire. La lecture profite toujours à l'écriture, l'écriture profite à la lecture, tout ça c'est d'un même trait. Je fais aussi de la critique du cinéma, il y a des choses que je vois au cinéma et qui m'inspirent beaucoup. Enfin, le cinéma est une espèce de fenêtre sur le monde quand même, souvent, pas toujours hélas, mais souvent. Bah, forcément ça crée de la matière, ça produit de la matière qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, ressortira. On disait tout à l'heure, on parlait de l'influence qu'avaient pu avoir sur moi les films de procès américains, bah oui, voilà, vous savez, tout arrive finalement à se recouper. Et finalement, moi, j'ai toujours l'impression que je fais qu'un métier, hein, j'en fais pas plusieurs. Hein, je fais le métier de regarder le monde, de regarder la vie et d'essayer d'en rendre compte ou de le fictionner dans des œuvres diverses.
Merci d'être passé ce matin, François Bégodeau.
Merci à vous.
Demain, je serai avec Pascal Rabatté. Bonne journée.